Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
On commence avec la Ligue africaine des champions, les demi-finales retour et le Caire, centre du foot continental ce soir.
Deux clubs de la capitale égyptienne en lice à domicile face à des formations sud-africaines. Le tenant du titre, l'Al Ahly, accueille les Mamelodi Sundowns à 16h, temps universel. Alors que pour la première fois de son histoire, le Pyramids FC a l'occasion de se hisser en finale. Le club fondé en 2008 affronte au stade du 30 juin les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Après le nul, 0-0 du match aller, tout reste à faire et une finale continentale validerait l'impressionnante saison de Pyramids, Martin Dumas-Primbo.
Ce soir, c'est peut-être une page d'histoire qui s'écrit pour le Pyramids FC. Une victoire lors de la demi-finale retour au Caire face aux Orlando Pirates sud-africains marquerait un tournant pour ce club longtemps considéré comme un petit pousset au pays des géants depuis sa fondation en 2018. Déjà en tête du championnat égyptien, cette performance viendrait couronner une saison exceptionnelle pour le dernier né des clubs du Caire. Propriété d'un homme d'affaires émirati, le Pyramids FC n'a jamais caché son ambition. Rivaliser avec les monstres africains Al Ahly et Zamalek. Mais jusqu'ici, les trophées n'ont pas suivi. Une seule ligne à leur palmarès, la Coupe d'Égypte en 2024, et des tribunes toujours tristement vides. Le club aux allures de franchise de football américain peine encore à gagner le cœur des supporters et à s'installer sur les plus prestigieux podiums. Heureusement, il peut compter sur Ibrahim Adel, milieu égyptien et co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 5 réalisations, et sur le Congolais Fiston Mayele, numéro 9, est déjà auteur de 3 buts. Martin Dumas-Primbo, Le Caire, RFI.
Pyramids Orlando Pirates, coup d'envoi 19h, heure locale, 18h, temps universel.
Au Maroc, le Wydad Casablanca limoge son entraîneur.
Roulani Mokwena, qui a fait les beaux jours des Mamelodi Sundowns, aura tenu moins d'un an sur le banc du WAC. Le Sud-Africain de 38 ans, limogé après un 6e résultat nul consécutif qui place le Wydad 3e du championnat à 3 journées de la fin. Le WAC, engagé au Mondial des clubs cet été, va donc devoir chercher un nouvel entraîneur.
En tennis, pour finir, elle est de retour.
Blessé à la jambe gauche, 11 Jabeur n'était plus apparu sur le circuit depuis le tournoi de Miami en mars dernier. La Tunisienne retrouve les courts de tennis ce vendredi à Madrid pour le deuxième tour du tournoi WTA 1000. Et à l'entendre, la période de convalescence lui a fait du bien physiquement, mais aussi mentalement.
Je me sens beaucoup mieux, j'ai pris mon temps pour faire de la rééducation. Maintenant, je me sens à 90%. Je voulais voyager un peu pour profiter de la France et voir ma famille. C'est tellement bon d'être à la maison. Cette année, je veux juste écouter mon corps. Je ne me force plus à jouer des tournois que je n'avais pas envie de faire. Et j'essaye de profiter de mon temps autant que je le peux. J'ai vraiment une équipe formidable avec moi. Ils m'aident à définir mes objectifs. Tout ça est très enrichissant. Je crois que le tennis me rend toujours heureuse. Et si un jour ce n'est plus le cas, c'est qu'il y aura un problème.
11 Jabeur avec Pierre Chaperon, la 27e mondiale opposée à la japonaise Moyuka Uchijima à 10h30, temps universel.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquelle-Rohan.
Et à la une de l'info, l'escalade entre l'Inde et le Pakistan, 2 jours après l'attentat qui a tué 26 personnes au Cachemire indien. New Delhi a annoncé hier la suspension de la délivrance des visas pour les Pakistanais et l'annulation de tous ceux en cours d'ici le 29 avril. Le Pakistan riposte et les deux pays demandent donc aux ressortissants de leurs voisins de quitter rapidement le territoire. L'ONU appelle ce matin New Delhi et Islamabad à la retenue maximale. La Russie est prête à conclure un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, les mots de Sergueï Lavrov, cette nuit le chef de la diplomatie russe. Alors qu'après les frappes de missiles russes qui ont tué 12 personnes dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev, Donald Trump a quant à lui exhorté Vladimir Poutine à cesser de bombarder l'Ukraine. Vladimir, arrête, a-t-il écrit sur son réseau social. Et puis en France, l'effroi et le temps de l'enquête au lendemain de l'attaque au couteau qui a tué une jeune fille et blessé 3 élèves dans un lycée privé de Nantes. L'assaillant est à l'hôpital psychiatrique, un adolescent décrit comme dépressif et inspiré par l'idéologie néo-nazie. Le procureur de Nantes donnera une conférence de presse ce soir. C'est demain à Rome que son église lui dira adieu pour de bon. Le pape François sera enterré ce samedi en présence de dizaines de chefs d'État et de centaines de milliers de personnes. Les hommages continuent d'affluer depuis sa mort le lundi de Pâques, y compris hors du monde chrétien, pour ce pape qui s'était engagé en faveur du dialogue interreligieux. Sur RFI ce matin, c'est une personnalité musulmane qui nous parle de lui. 10 ans après leur rencontre en Centrafrique, le Sénégalais Abdoulaye Batili était alors le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale. Il est aujourd'hui l'envoyé spécial du président du Sénégal auprès du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Quel souvenir garde-t-il du pape François ? Le professeur Batili est notre grand invité Afrique avec Christophe Boisbouvier.
Abdoulaye Batili, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi voulez-vous rendre hommage au pape François ?
Eh bien, le pape François n'a pas été que le chef de l'Église catholique. En Afrique, il a joué un rôle très important dans certains conflits. J'ai été témoin de l'un en particulier. En 2015, comme vous le savez, il a visité la République centrafricaine. Et le pape ne s'est pas simplement occupé de sa mission pastorale. Il a tenu à aller même jusqu'à la mosquée de Bangui, dans le quartier PK5, qui regroupait beaucoup de musulmans. Et il est resté avec nous à la mosquée. Il s'est entretenu avec les chefs religieux musulmans, avec tous les acteurs de Centrafrique. Ce geste m'a particulièrement marqué. Et il faut dire que c'est ce passage du pape qui nous a permis vraiment de donner une accélération au processus politique en Centrafrique qui a abouti pour la première fois dans l'histoire de Centrafrique à l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et bien entendu, je suis navré que cette œuvre du souverain pontife n'ait pas été suivie. Quand je vois ce qui se passe, les tentatives de troisième mandat, source encore d'instabilité pour ce pays.
Donc ce que vous avez vu à Bangui, c'est pas seulement un pape, c'est aussi un homme avec ses qualités.
Un homme avec ses qualités, il a une vision œcuménique de l'humanité. Le pape François est un humaniste. Et malheureusement, quand on voit les tourments du monde actuel, au moment où il quitte cette terre, il y a de quoi vraiment le regretter profondément.
Regrettez-vous qu'il s'en aille au moment où arrive Donald Trump ?
En tout cas, aujourd'hui, la scène internationale manque d'une voix forte, une voix morale. Le souverain pontife François a donné cet exemple et nous souhaitons que cette crise de leadership puisse être surmontée le plus rapidement possible. Parce que le monde est en manque de leadership aujourd'hui. Il y a une véritable crise de leadership de qualité.
Alors, dans leur document commun de 2019, le pape et le grand imam de la mosquée Al-Azhar écrivent « Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexes, de races et de langues sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. » Sous-entendu, Dieu s'exprime à travers plusieurs religions. Vous qui êtes musulman, comment vous avez réagi à ce document ?
Eh bien, il n'y a pas plus sage que ces termes-là. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui est dit là et l'avenir du monde est dans ses propos. Sinon c'est l'aventure, c'est le chaos. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin d'un leadership responsable.
Vous rendez donc hommage à François, le pape du dialogue, mais vous aussi, à votre niveau, vous êtes un homme de dialogue, puisque Bassirou Diomaye Faye vous a nommé l'an dernier envoyé spécial de la présidence sénégalaise auprès du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Mais cette semaine, à Accra, au Ghana, pour les 50 ans de la CEDEAO, aucun ministre de ces trois pays n'est venu. La cassure entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO est donc manifeste. Est-ce que vous n'êtes pas découragé ?
Le découragement n'est pas une option pour moi. Je suis venu justement à Accra ici pour remettre un message de solidarité, d'espoir, un message témoin de la volonté des deux chefs d'État, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Johnny Dramani Mahama du Ghana, de continuer aux côtés de leurs autres collègues de notre région ouest-africaine, le dialogue, la négociation, la discussion pour que l'Afrique de l'Ouest soit restaurée dans sa stabilité, dans ses perspective de développement. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.
Oui, mais la rupture est consommée, professeur.
Je ne suis pas du même avis que vous. Les peuples veulent rester ensemble. L'histoire et la géographie nous le commandent et nous y arriverons.
Est-ce qu'avec les contacts que vous avez établis et qui sont solides, hein, avec Bamako, Niamey, Ouagadougou, vous avez l'espoir que d'ici le 27 juillet, la date limite, il soit possible de trouver un accord entre l'AES et la CEDEAO ?
L'histoire est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. Je suis optimiste et les peuples de l'Afrique de l'Ouest veulent rester ensemble pour construire des espaces de paix et de solidarité.
Abdoulaye Batili, merci.
Abdoulaye Batili, grand invité Afrique de Christophe Boisbouvier. Le pape François, on en reparle tout à l'heure avec notre invité, Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras dans le nord de la France. Il sera en ligne avec nous à 6h20 en universel. Et dans l'actualité des matières premières ce matin, la tonne de cacao en baisse de 3 000 $ au premier trimestre de 2025. Une baisse qui a changé les habitudes d'achat des industriels. Marie-Pierre Olfan, bonjour.
Bonjour.
Les fabricants de chocolat qui achètent beaucoup par anticipation ont préféré ces derniers mois acheter uniquement ce dont ils avaient besoin.
Oui, c'est la tendance générale qui se dégage. Les achats à terme, comme on les appelle, ont chuté de manière spectaculaire. Cela fait même 20 ans que le nombre de contrats à terme n'avait pas été si bas. Or, ces contrats permettent aux fabricants de chocolat d'être moins vulnérables. Ils achètent généralement plusieurs mois à l'avance leur sac de fèves à un prix fixé à un instant T pour se prémunir des fortes variations et de la flambée des cours. Plus les industriels sont inquiets de voir les prix fluctuer et augmenter, plus ils vont sécuriser leur livraison longtemps à l'avance.
Mais alors, comment expliquer ce changement d'attitude sur les marchés ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Certains industriels auraient parié sur la baisse des cours et préféré attendre pour sécuriser leurs achats à un prix plus bas. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs reconnu privilégier des achats ponctuels pour répondre à leurs besoins immédiats. Mais d'autres ont arrêté de sécuriser leur approvisionnement pour des raisons purement financières. Car acheter par anticipation à un coût, il faut immobiliser une sorte de caution auprès des places boursières de Londres et de New York qui proposent des contrats à terme sur le cacao. Plus les variations des cours sont grandes, plus la garantie déposée est importante. Cela peut représenter jusqu'à des centaines de millions de dollars. À un moment donné, les acheteurs n'ont plus la capacité de financer ces coûts. La même tendance a d'ailleurs été constatée sur le marché du café.
Et Marie-Pierre, cette situation va-t-elle durer ?
Alors, pas forcément. Si les conditions climatiques ne s'améliorent pas et si l'approche de la présidentielle ivoirienne engendre des tensions politiques, les observateurs s'attendent à ce que les cours qui sont repartis à la hausse depuis 10 jours continuent de remonter. On pourrait donc assister à une reprise des achats à terme, à condition que les pays d'origine du cacao, la Côte d'Ivoire en premier, acceptent de vendre plus de volume par anticipation. Or, les pays producteurs d'Afrique de l'Ouest se montrent prudents cette année et limite leur vente pour l'instant.
Marie-Pierre Olfan pour les matières premières. Merci beaucoup. Et comme chaque vendredi, les dessous de l'Infox, avec aujourd'hui un focus sur le système monétaire européen. L'euro, partagé par 20 pays de l'Union, est actuellement la cible d'une vaste campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Julien.
Alors que la Banque Centrale Européenne ambitionne d'émettre, dans les prochaines années, une monnaie virtuelle, certains parlent, à tort, de l'interdiction de l'argent liquide en France, et même de la fin de la zone euro.
Oui, à en croire une vidéo mensongère devenue virale sur TikTok cette semaine, la France aurait décidé, je cite, de quitter la zone euro pour utiliser le franc CFA. Cette fausse information repose sur plusieurs extraits de journaux télévisés attribués aux chaînes de télévision françaises M6 et BFM TV. Écoutez.
La France va sortir de la zone euro.
En Allemagne, le message est le même. L'euro, c'est fini. Chaque pays va revenir à sa monnaie.
Cette vidéo, vue plus de 4 millions de fois sur les réseaux, suscite beaucoup d'interrogations, notamment sur le continent africain. Dans les commentaires, des internautes pointent plusieurs incohérences. Un extrait présente Mariano Rajoy comme l'actuel chef du gouvernement espagnol, alors qu'il a quitté ses fonctions en 2018. Idem pour Angela Merkel, présentée comme la chancelière allemande, alors qu'elle a été remplacée en 2021 par Olaf Scholz.
Des doutes légitimes, puisque ces journaux sont sortis de leur contexte.
Oui, en faisant une recherche avec les mots-clés M6, BFM TV est sorti de l'euro. On retrouve rapidement la trace de ces extraits. En réalité, ce sont des journaux fictifs réalisés il y a maintenant 13 ans, en 2012, en pleine campagne présidentielle. La sortie de l'euro, argument poussé par le Front National de Marine Le Pen, était au cœur de l'actualité à ce moment-là. M6 et BFM TV avaient alors fait le choix de simuler le retour au franc qui n'aura évidemment jamais eu lieu.
À noter que ce n'est pas la première fois que cette fausse information circule.
Non, chaque année, ces vieux journaux fictifs refont surface sur les réseaux sociaux au gré de l'actualité économique. Des comptes de désinformation les diffusent pour faire des vues et semer le trouble et les indicateurs de viralité montrent malheureusement que ça fonctionne.
Et ce n'est pas la seule info que ça a circulé à propos de l'euro cette semaine, Grégory.
Non, dans la même veine, une vidéo affirme qu'une loi viendrait tout juste d'être votée en France pour interdire les espèces.
C'est confirmé, nouvelle loi en avril. L'argent liquide sera bientôt interdit partout en France et en Europe.
Mais une nouvelle fois, tout est faux. Nous avons vérifié dans le journal officiel et aucune loi de ce type n'a été promulguée en avril. Cette infox détourne en fait le projet d'euro numérique voulu par la Banque Centrale Européenne et qui génère aujourd'hui beaucoup de fantasmes.
Alors en quoi consiste réellement ce projet ?
Alors d'après les documents officiels de la BCE, l'euro numérique n'est pas destiné à remplacer l'argent liquide, mais à proposer une forme complémentaire de paiement. Si la carte bancaire est aujourd'hui le moyen de paiement le plus utilisé en France, plus d'un Français sur deux estime qu'il est important de pouvoir payer en espèces. Preuve que l'argent liquide a encore la cote.
Grégory Genevrier pour Les Dessous de l'Infox. Merci beaucoup. L'émission Les Dessous de l'Infox, c'est ce soir comme chaque vendredi à 17h30, temps universel.
RFI, la sélection du monde.
Sika Air Lion avec Oesson.
Ou arrive beaucoup ban zot nan no because pour tous on make fun
education fuck up
Diedo Blé en bolé
our culture fuck up our language fuck up the food we eat fuck up transportation fuck up
RFI musique 8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
À l'occasion du sommet Change Now, l'exposition universelle des solutions pour la planète à Paris, nous donnons la parole aux femmes engagées dans la transition écologique et féministe sur le continent.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Elle est née sur un voilier en plein océan, mais sa mère s'est enfuie avec elle encore bébé. Elle n'a jamais revu son père, qui a fait naufrage quelque temps après avec sa sœur. Cette histoire est celle de Virginia Tangvald, fille du célèbre navigateur. Une histoire folle qu'elle raconte dans son livre « Les enfants du large ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.